Which way is it, Mark?
D'où viens-tu, étranger?
Je viens d'un pays entre le nord et l'est. Je ne puis rien vous dire d'autre.
Africa!
Il faudra repartir.
Christine, veuillez vous attendre.
Allez,
appareillez,
appareillez!
Personne ne doit me repartir.
Bonsoir ou bonjour à toi, cher auditeur qui nous écoute sans doute en podcast. Pour l'heure, nous sommes le vendredi 1er décembre et je suis dans le studio de transmission avec mon invité d'aujourd'hui, Lola Salem. Bonjour Lola.
Salut Naïd.
As-tu écouté la première émission d'Il faudra repartir il y a 2 semaines?
J'ai écouté le début puisque je reconnais le générique, mais j'ai pas pu écouter jusqu'au bout. Mais c'était un très très beau premier podcast. Félicitations à toi.
Merci. Mais du coup, pour rappel, tu es donc ma deuxième invitée puisque j'ai lancé l'émission il y a 2 semaines avec Bleuen Bautière qui était partie au Costa Rica avec une bourse de l'association Zelidja. Donc le vendredi, 2 fois par mois, nous partons en voyage avec un nouvel invité, un voyageur ou une voyageuse partie quelque part avec un projet précis de recherche, de création ou autre. Donc aujourd'hui, nous quittons le Costa Rica pour revenir en Europe, en restant cependant sur la thématique environnementale, parce que pour rappel, Bleuen était allée au Costa Rica étudier les liens entre éducation et protection des écosystèmes dans le pays. On reste donc sur une thématique écologiste, puisque Lola, tu es partie sur les routes d'Europe en voiture électrique.
Oui, alors la voiture électrique, c'était le moyen de transport. Ouais. Maintenant, le but de ce voyage, c'était pas forcément la voiture électrique en soi. TREV, c'est l'acronyme pour témoignage d'une révolution énergétique, un voyage européen. Et l'idée, c'était de pouvoir aller dans un maximum de pays européens pour essayer de comprendre comment effectivement se passe la transition énergétique qui n'est qu'un seul des grandes, disons, parties ou en tout cas des thèmes corollaires au changement climatique auquel le monde entier est confronté aujourd'hui. Donc c'était pour nous une sorte de prétexte pour aussi parler plus largement de l'écologie, de tout cet objet-là. Et finalement, on a pu aller dans 15 pays européens pendant cet été, pendant 4 mois, effectivement en voiture électrique.
D'accord, donc tu vas nous en parler dans un instant, on détaillera un peu plus ton parcours. Après quelques minutes d'actualité voyageuse.
Actualité
voyageuse. Alors, les actus voyageuses, c'est quelques minutes en début d'émission où je vous parle d'une actualité en rapport avec le voyage. Donc ce sera souvent une publication, la sortie d'un film ou un festival, comme la dernière fois où j'avais parlé du Grand Bivouac. Et comme aujourd'hui, car le week-end dernier, je suis allée faire un tour à Nantes au Festival des Trois Continents. Est-ce que tu connais le Festival des Trois Continents à Nantes ?
Alors non, malheureusement, pas du tout.
Et ben, je vais en parler un petit peu.
Tant mieux.
Donc le Festival des Trois Continents, c'est pas vraiment un festival de voyage proprement dit comme le Grand Bivouac, mais c'est vraiment un festival de cinéma, mais qui fait voyager ses festivaliers puisqu'il porte plus spécifiquement sur le cinéma extra-occidental, donc Asie, Afrique et Amérique latine. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en avant dans ce festival des cinémas qui sont souvent méconnus, puisque le cinéma mondial est encore assez dominé par la présence un peu massive du cinéma américain et européen, même si l'appellation de cinéma art et essai tend à estomper ce clivage en mettant en valeur des films beaucoup plus divers, avec des provenances plus diverses géographiquement. Donc le festival des Trois Continents à Nantes, ça reste un festival de petite taille. C'est surtout autour de 3 cinémas que ça se passe dans le centre de Nantes, notamment le cinéma 14A, qui est un peu une institution pour les Nantais apparemment. Mais c'est un festival qui est déjà ancien puisqu'il est créé en 1979 et il a vu passer beaucoup de cinéastes du monde entier. Alors cette année, plus spécifiquement, c'était à partir du 21 novembre jusqu'au 29. Et il y avait donc cette fois-là un focus sur le cinéma argentin. Une rétrospective qui s'appelait « Une véritable histoire du cinéma argentin ». Donc l'idée, c'était de couvrir en quelques films des moments clés et toujours assez méconnus du cinéma argentin, parce que moi, je ne le connaissais que par les films sur le tango avec Carlos Gardel, mais je n'ai même pas vu ces films. En fait, c'est vraiment une image que j'en ai qui est un peu lointaine. Il y a beaucoup de films argentins, en dehors de ça, qui sont assez introuvables. J'ai vu un film de Rodolfo Kuhn qui s'appelle Pajarito Gómez, je ne parle pas espagnol, désolée pour l'accent, qui est donc l'histoire de la montée en puissance d'un chanteur pop populaire, un chanteur imaginaire en fait, le personnage de Pajarito Gómez. Et donc c'est vraiment un film sur la modernité musicale et cinématographique qui fait un peu penser au film de Cassavetes en début de carrière, dans sa manière de filmer la ville de Buenos Aires en noir et blanc, d'une manière un peu, non pas jazz mais pop cette fois-là, mais quand même il y a un lien musical comme ça. Ensuite, le deuxième moment fort du festival, c'était une rétrospective consacrée à un cinéaste coréen que je ne connaissais pas vraiment. J'en connais d'autres, mais celui-là pas trop. Il s'agit de Shin Sang-ok. Il a réalisé des films vraiment de tous les, de beaucoup de genres différents. Et moi, j'en ai vu en particulier un diptyque historique qui s'appelait Le prince Yeon-san et le tyran Yeon-san. Mm-hmm. Donc, c'était l'histoire de comment un prince fait sombrer son pays dans la tyrannie pour satisfaire un besoin personnel de vengeance, assez classique.
Rien de plus d'actualité non plus. Hein.
Peut-être. Ça durait 4 heures en tout avec les deux films. Je les ai vus à suivre en soirée. C'était assez shakespearien comme intrigue. C'est un peu un Richard III coréen. Donc, à recommander.
Ça a l'air très intéressant.
Ouais,
très
c'était tout à fait intéressant, comme le festival dans son ensemble. Donc, allez au Festival des Trois Continents l'année prochaine. Ce sera toujours en novembre et ça commence autour du 20 en général. Voilà, donc ça se passe à Nantes.
Chouette.
Donc, on va revenir à ton projet proprement dit. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ton parcours avant, indépendamment de ce projet ?
Alors, moi, je viens des humanités. J'ai fait un master en musicologie, j'en finis en philosophie. Et je suis chanteuse à côté, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la maîtrise de Radio France quand j'étais petite. Enfin, voilà, c'est tout un background qui ne m'amenait pas à parler de l'écologie particulièrement, à m'orienter vers des choses de géopolitique. Vient un moment, en tant qu'élève normalienne, on rencontre beaucoup de gens, on a du temps un peu libre aussi pour soi, et on se dit, finalement, qu'est-ce que je vais faire un peu de... Alors déjà dans ma vie tout court, mais quelque chose qui peut-être a du sens, pour moi en tout cas, qui peut être sur une période un peu courte, et qui peut me permettre de donner ce que j'ai reçu d'un autre côté, par mon éducation, etc. Et en fait, c'est présenter la possibilité de travailler sur cette question, parce que j'étais en lien avec d'autres élèves, plutôt eux en sciences soit dures, soit des sciences sociales ou économiques, etc. Donc des choses peut-être un peu plus de pointe ou plus légitimes en soi pour parler de l'écologie. Et ça nous a pris à peu près un an et demi pour pouvoir travailler sur cette idée, monter les fonds, etc. Donc j'ai co-créé l'association dont je suis l'administratrice principale avec Damien Moulin, qui est également élève normalien, lui en physique. Et on est parti avec un autre ami, Louis Domas, qui lui est en économie. La forme du voyage nous a pris pas mal de temps, puisqu'au départ, on voulait vraiment faire un vrai voyage européen, aller de l'ouest à l'est. Parce que cette question de... Voilà, on s'est fixé la transition énergétique, comme je disais tout à l'heure, mais c'était un prétexte pour parler plus largement de l'ensemble de ces questions écologiques. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas de pouvoir aller à l'Est. Et donc, de 23 pays, on est tombé petit à petit à 15, enfin à 16, puis 15. Et ça, c'est une question, justement, une anecdote de voyage, parce que la voiture électrique, ce n'est pas simple partout en Europe. Et c'est aussi révélateur, d'une certaine manière, de l'avancée de certains pays sur le fait de mettre à disposition ou non pour les gens un service électrique et donc propre, ou plus propre en tout cas. Et donc, on devait aller également au Portugal et on n'y est pas allé.
15 pays, ça fait déjà,
c'est déjà pas mal.
Un très beau parcours, oui. Et du coup, donc on n'aura pas de présentation d'un seul pays cette fois, puisqu'il s'agit de plusieurs pays, même si dans les autres émissions de Il faudra repartir, on aura souvent, on consacrera souvent les émissions à une seule destination, mais donc là, on fait un parcours. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu le parcours, dans quel pays vous êtes allé et dans quel ordre ?
Du coup, il y a une destination qui est l'Europe. Et notre question de voyage, puisque c'était d'abord une enquête de terrain, c'était est-ce que l'Europe est une échelle pertinente pour penser la transition ? Donc, bien évidemment, malheureusement, on n'a pu faire que 15, entre guillemets, pays de l'Europe de l'Ouest majoritairement, qui a été quand même une certaine unité et qui nous a permis, par prolongement, de parler un peu d'Europe de l'Ouest ou même d'autres pays dans le monde entier. Et donc on a commencé, alors en partant de Paris, d'ici même, 45 rue d'Ulm, on allait d'abord à Bruxelles, ensuite on est parti en Angleterre, on a fait Londres, on est passé à Oxford où j'étais pendant l'année en fait et où j'ai réussi à organiser d'autres événements, on est passé en Irlande, en Écosse, on est revenu sur le continent, à nouveau via Bruxelles, on est allé aux Pays-Bas via Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, on est allé ensuite... alors de mémoire au Danemark, en passant d'abord juste un tout petit peu une première fois en Allemagne avec Hambourg. Donc au Danemark, Copenhague, on a passé la frontière, ensuite on est allé en Suède, en Finlande. C'est assez intéressant le passage de Suède en Finlande, en fait c'est le ferry. Donc du coup, on a peu utilisé la voiture. Et d'ailleurs, à cette époque, on a eu un petit problème avec la voiture, donc c'est tant mieux. Donc on a pris le ferry, on est arrivé directement de Stockholm à Helsinki. Puis on est revenu, voilà, je vais faire plus rapidement la suite, on est repassé par l'Allemagne. On allait même dans des tout petits patelins allemands assez charmants. On allait en République tchèque, on allait en Autriche. On a fait le nord de l'Italie avec, alors pas Florence d'abord, Rome, Florence et Milan. On a fait la Suisse, que c'était l'un des seuls pays que j'avais jamais fait. J'étais très très contente de pouvoir découvrir via ce voyage-là. Et ensuite, en repassant juste par la France, on est par Lyon tout particulièrement. On a fini avec l'Espagne. Et comme je disais tout à l'heure, on voulait aller au Portugal, qui était un peu la fin logique de cette péninsule. Malheureusement, la voiture ne voulait pas, ne pouvait pas. Et donc, on est reparti directement sur Paris.
D'accord, oui. Oui, il y a des considérations très pratiques qui entrent en compte. On va revenir là-dessus au cours de l'interview. Et oui, c'est vraiment un beau parcours. Et je voulais te demander, donc, dans les grandes lignes, en quelque sorte, ce que tu as tiré de ton voyage en termes de connaissance de ton sujet. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes lignes? C'est vraiment une question assez vaste, hein, mais les grandes lignes de l'étude, si c'est possible.
Donc, est-ce que l'Europe est une échelle pertinente pour penser la transition énergétique? Et qu'est-ce que veut dire la transition énergétique? Ça, c'est déjà pas mal de choses que j'ai découvertes moi-même. Ce que je pense être important, à titre personnel, de sortir de tout ça, c'est que, effectivement, c'est pas un objet simple. Et que le plus souvent, en plus, dans la vie de tous les jours, on n'y pense absolument pas. Tu allumes la lumière dans une pièce, c'est vraiment un bouton. Et c'est presque normal, peut-être malheureusement, j'en sais absolument rien, mais qu'on ne pense pas tout la hiérarchie et la complexité du réseau qu'il y a derrière. Donc déjà, c'était pour moi mieux comprendre tout simplement des choses du quotidien. Et ensuite, mettre en avant des questions pointues, aiguës et urgentes, qui sont elles-mêmes imbriquées avec d'autres dans tout le changement climatique qu'on connaît et toutes les transitions importantes à faire, notamment politiques, sur ces questions-là. Et ce que ça m'a apporté ensuite en vrai terme scientifique, c'est que finalement, de toute la panoplie des problématiques qu'on a essayé de brasser, puisqu'on a essayé de faire ça de manière transdisciplinaire, le plus vaste possible, et l'idée c'était de rencontrer des gens, donc de témoigner en fait sur le terrain, avec des gens qui travaillent à des niveaux totalement différents, des échelles très locales jusqu'aux échelles internationales, notamment à Bruxelles. On a rencontré des gens qui travaillent sur l'ensemble du continent européen. C'était finalement de voir que dans toutes ces problématiques, finalement, celles qui comptaient le plus et qui étaient les plus difficiles à mettre en place, c'était les questions sociales, politiques, même cognitives. Et moi qui suis en philosophie de l'art, etc., esthétique. C'est-à-dire que les questions de...
Esthétique.
Ouais. Les questions technologiques, par exemple, les questions économiques, oui, elles sont importantes, mais finalement, c'est presque ce qui a déjà été le plus vu, le plus fait, et on a les outils. Les choses sont en place dans la plupart des pays. Ce qui manque maintenant, c'est une vision. Et c'est une vision qui prenne en compte justement tous ces éléments pour l'instant ignorés. Et typiquement, si on se penche sur des questions de cognition, en fait, savoir comment l'esprit humain ça vit dans un milieu, s'approprie un milieu, s'approprie son chez-lui, ça passe aussi vers des questions esthétiques. Par exemple, qu'est-ce que je veux dans mon background, qu'est-ce que je veux dans mon backyard? C'est un phénomène qui est assez connu vis-à-vis des éoliennes en particulier, not in my backyard. L'idée de, par exemple, se dire qu'est-ce qu'on veut présenter? Est-ce que ça doit être beau? Est-ce que ça doit être agréable? Bah ça, c'est des problématiques que les constructeurs se posent depuis très peu de temps. Alors, se pose parfois très très bien. On a rencontré des gens de chez Engie, qui est un de nos sponsors, mais aussi les concurrents, Vestas, E.ON, etc. Et c'est des choses qu'ils prennent en compte maintenant. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et c'est en voyant un peu tout ce fourmillement de questions qui souvent est soit pas du tout vu dans les revues de littérature, soit de manière très, très sporadique, très, très ponctuelle, que je me suis dit qu'effectivement, venant des humanités, il y avait peut-être là le moyen de s'inscrire quelque part. Et puis ensuite, finalement, de tout ce que j'ai pu en ressortir aussi, c'était que, puisque c'était une question de vision politique, une question d'action, et ben en fait, tout le monde pouvait, tout citoyen, tout citoyenne, pouvait prendre le pas et effectivement agir.
Oui, c'est lié à la portée très politique du voyage dans son origine même. Et oui, c'est intéressant par rapport à cette question esthétique, parce que c'est vrai que c'est un facteur qui est énormément pris en compte dans l'urbanisme, enfin depuis le début en fait, voilà, la manière dont le bâti est perçu dans l'expérience même la plus concrète et quotidienne. Et du coup, oui, c'est vrai, pourquoi on ne le fait pas dans le cadre des installations liées à la transition énergétique ? C'est vrai que c'est intéressant.
Il y a une chercheuse qu'on a rencontrée à l'université d'Helsinki, donc Eva Eskanen, qui a, dans ces mots-là, posé la question. Alors, elle est pertinente, elle n'est pas pertinente. En tout cas, ça vaut, je pense, le coup de la poser. Ce qui est que, par exemple, quand vous achetez des vêtements, bah, vous n'allez pas acheter la moindre qualité. Quand vous allez acheter de la nourriture, vous n'allez pas non plus, vous savez pertinemment que... Et aujourd'hui, on parle beaucoup, justement, d'un nouveau rapport à la consommation qui passe notamment par la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose pour l'énergie ? Alors, il y a plein de questions qui se posent. Effectivement, la majorité des choses en énergie ne se voient pas. Donc typiquement, c'est des choses qui sont enfouies dans le sol, etc. Bon, alors, si tant est que le matériau le plus cher soit de toute manière le plus efficace, etc., ce qui reste parfois à démontrer, puisque et c'est peut-être là où, même si on s'est totalement fait dépasser par la Chine, par exemple, en termes de construction de panneaux solaires, l'Europe, avec justement sa plus-value technologique, peut avoir quelque chose à jouer là-dedans. Malheureusement, il y a encore des panneaux solaires, même si la durée de vie s'allonge, ça ne peut pas aller plus loin parce qu'on utilise aussi des matériaux qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs, etc. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, alors j'ai appris tout ça, mais il y a des crises du sable qui font que ça rend encore plus compliqué, justement, l'idée de se dire que oh, bah, ça va, maintenant on va pouvoir construire autant de panneaux solaires, ce n'est pas vrai. Donc effectivement, il y a ces questions qui sont très concrètes de construction. Et surtout, ce qui est... pas caché, à l'œil visible, là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Sur cette question-là, ce qui m'a un peu chagriné, dirons-nous poliment, c'est que, à mon sens, la manière dont tout ce qu'on peut incorporer, nous, dans notre quotidien, est présenté, c'est toujours une certaine manière de se différencier des autres, socialement notamment. Donc c'est un style de vie, un lifestyle, c'est vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, c'est aussi ne plus être... en dissonance avec soi-même, se dire non mais je veux faire des choses pour l'environnement, etc. Mais c'est pas dans l'optique de le faire comme si c'est mainstream, quoi. C'est encore pour se détacher du reste de la population en disant regardez, j'ai une voiture électrique, regardez, j'ai mis des panneaux solaires sur ma maison, qui sont beaux d'ailleurs, donc ça rajoute de la plus-value sur ma maison, etc. Et en fait, c'est un ensemble d'éléments qui, quand on vous le vend avec un marketing vert, c'est pas pour dire il faut que ça devienne normal, c'est encore pour dire c'est du design, voilà. Moi, j'aimerais bien que ça soit finalement, en fait, totalement démocratisé. Et pour l'instant, ce qu'on peut vendre, par exemple, aux gens qui ont alors, moins les moyens, même si, en général, les gens qui peuvent se payer des panneaux solaires, c'est quand même pas le premier qui d'aime venu, c'est pouvoir leur vendre des choses belles et qu'ils aient envie, en fait, de montrer et qu'ils aient envie de juste pouvoir se dire que c'est pas tant qu'un énorme investissement, mais c'est un petit investissement qui est nécessaire.
Et en même temps, faire en sorte que ce ne soit pas une distinction sociale, mais que ce soit
C'est un idéal de démocratie. Après, bien effectivement, on va dire que dans le modèle économique dans lequel on est, ce n'est pas très valorisé.
Bien sûr. Et oui, je voudrais revenir sur ce que tu disais au tout début, sur l'idée de se poser la question, est-ce que l'échelle européenne est pertinente pour une telle étude est-ce qu'il y a... J'imagine que vous allez à la fois, dans un tel projet, procéder à l'échelle européenne, donc comment se déroule la transition énergétique à cette échelle, et en même temps, il y a quand même une manière différenciée de travailler à cette transition énergétique pays par pays, et d'introduire les énergies renouvelables dans chaque pays. En fait, j'imagine que c'est différent et que le voyage visait aussi à comprendre ces différences. Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet, il y a des pays plus avancés dans la transition.
Oui, bien sûr. Alors la question des échelles, c'est une question qui revient en permanence. Moi, je pense qu'elle est peut-être de moins en moins pertinente, pour d'autres raisons qu'on peut développer plus tard, mais elle reste intéressante parce qu'effectivement, elle permet au moins de pouvoir faire entrechoquer, en fait, justement, des différences, notamment nationales, qu'on ne soupçonne pas parfois. Alors, l'Europe, on a envie qu'elle se construise. En ce moment, elle se morcelle plutôt. Et il y a de toute évidence, que l'on pense à l'écologie ou pas, un besoin d'une vision européenne. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi elle ne se fonderait pas sur l'écologie ? Ce qui a été sûr, c'est qu'en fait, pendant le voyage, on a travaillé pendant le voyage avec un rythme très soutenu, pour notamment publier très régulièrement des synthèses. Et moi, j'ai par exemple filmé presque toutes les interviews qu'on a faites. On est arrivé à environ 90 personnes. Donc j'ai notamment filmé, monté, etc. et présenté sur notre site trèveproject.com. D'unité territoriale à unité territoriale, les spécificités, les contradictions internes et les contradictions par rapport au reste, par rapport au tout européen. Effectivement, il y a des pays qui sont plus avancés. Il y a par exemple les pays nordiques et typiquement le Danemark qui a dépassé depuis bien plus longtemps que tout, même en France, les objectifs qui sont fixés à l'échelle européenne. Et c'est même intéressant dans ces pays-là très avancés de voir justement quelles sont maintenant leurs nouvelles difficultés. Pardon. Typiquement au Danemark, les gens ont fait justement un choix commun, démocratique, social, d'investir un peu plus dans leur coût énergétique pour finalement pouvoir le réformer plutôt à fond et aujourd'hui atteindre des scores, alors que je n'ai plus en tête, mais c'est vraiment très avancé en termes d'énergie produite et consommée verte. Aujourd'hui, par exemple, le Danemark se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a fait, on a payé ce prix-là et qu'on n'a pas les retours aujourd'hui, les retours économiques ?» En termes de scission, par exemple, avec l'Europe, je ne dis pas que le Danemark va quitter l'Europe, c'est pas ce que j'en pense, mais en termes de scission sociale, qui peut aussi donner du grain à moudre pour des extrêmes politiques, on en est là. La chose se passe, par exemple, en Autriche. Avec l'Autriche est très très avancée en termes de production, énergie verte. Et alors moi, je parle un peu dans le vif, j'en sais rien après dans les subtilités politiques, mais c'est de toute évidence un argument, en tout cas en théorie, qui pourrait très bien être pris par un extrême pour dire mais pourquoi est-ce qu'on fait partie d'un tout qui ne nous donne pas finalement ce dont on a droit parce qu'on a fait déjà les efforts avant les autres. Après, il y a d'autres pays assez intéressants comme l'Allemagne, qu'on connaît très bien comme économiquement dans tous les secteurs pouvant être très en avance. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne va connaître ou connaît déjà des problèmes liés justement à cette mise en marche un peu soudaine, puisque c'est au lendemain de la crise de Fukushima qu'il y a eu un revirement direct et que les gens ont dit « Ok, on va arrêter toutes les centrales nucléaires et on va se mettre aux renouvelables ». Ce qui passe par le paradoxe, puisque les renouvelables, c'est une énergie alternative qu'il faut pouvoir avoir des types d'énergie fossile. Donc, ils ont rouvert des mines à charbon. C'est le paradoxe, voilà. Mais, par exemple, typiquement, alors que l'Allemagne, effectivement, s'avance de plus en plus, le phénomène tsunami, quasiment, de prosumers, donc c'est-à-dire les gens qui produisent et consomment leur propre électricité, arrive vraiment tel un tsunami. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est très, très bien, et je pense que c'est, en soi... une très bonne chose que ça se fasse. Mais en fait, par exemple, les connexions de grilles n'ont pas tant changé que ça. Sauf qu'on peut très bien s'imaginer que s'il y a énormément de petites gens qui vont produire eux-mêmes, etc., c'est-à-dire qu'il faut rajouter un nombre qu'il faudrait calculer, qui est énorme, de connexions à la grille générale de réseau. Et ça, c'est difficilement mis en place en ce moment. Donc voilà, il y a des petits problèmes comme ça qui émergent, dont les autres pays n'ont pas toujours... connaissance, et c'est normal, on n'est pas spécialiste même dans son propre pays parfois. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir effectivement mettre ça en valeur. Et pour finir sur la question d'échelle, à mon sens, et ça c'est des choses que les chercheurs et chercheuses qui sont les meilleures personnes qu'on ait pu rencontrer, l'idée c'est penser global, agir local. Et effectivement, c'est sur des toutes petites collectivités, des toutes petites localités qui permettent de mieux repenser parfois le problème qu'on a vu les choses les plus intéressantes parfois.
D'accord, oui. Et d'un point de vue pratique, par rapport à ces différences de stade en fait dans la transition énergétique, j'ai cru comprendre qu'il y avait des pays où vous n'aviez pas pu aller justement parce que les dispositifs pour les voitures électriques étaient insuffisants, les bornes de recharge, etc.
Alors,
j'ai lu ça sur votre site.
Oui, effectivement. Ouais. Alors, je m'occupais notamment de toute la com, etc. Donc alors c'est lié sans être corollaire très très fort, mais effectivement, typiquement, si un pays veut mettre en place une transition énergétique qui peut passer notamment par le parc automobile, qui dans certains pays c'est environ un tiers par exemple de l'énergie consommée, donc c'est quand même énorme. Oui, c'est quand même quelque chose qui est important. Bah, mettre des points de recharge électrique, ça passe par là. Ce qui est intéressant, c'est que Tesla, par exemple, le concessionnaire automobile dont malheureusement je ne me souviens plus l'origine de pays, je ne sais plus si c'est américain ou pas, bref, est souvent pionnier dans cette matière. Donc quand on voit s'il y a des bornes Tesla, c'est qu'on voit le niveau un peu du pays en règle générale. Il y a des pays où il n'y avait pas du tout de bornes Tesla, ou en tout cas très 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 peu. Je crois que c'est le cas en Espagne par exemple, on a eu énormément de problèmes aussi. Et donc on a pu voir en amont où est-ce qu'on voulait passer, où est-ce qu'on pouvait passer surtout. Par exemple, on voulait aller en Pologne, parce que c'est quand même très très intéressant ce qui se passe là-bas. La Pologne, quand on a commencé à y travailler, il y avait 4 bornes de recharge dans tout le pays. Ça s'est énormément multiplié un an après le date de notre départ, ce qui montre bien qu'il y a une évolution et il y a une tendance à mettre plus de bornes de recharge. Donc il y a une volonté politique derrière, ou en tout cas économique, c'est évident. Et il y a des pays où effectivement c'était plus difficile. Et là, typiquement, c'est les pays Italie, Espagne et Portugal, où après presque un mois entier entre Italie et Espagne, ou en tout cas trois bonnes semaines, on a refusé d'aller au Portugal parce que c'était très difficile.
Ouais, d'accord. Du coup, on va vraiment revenir ici sur le voyage en tant que tel, mais en lien avec l'idée du moyen de locomotion. Quel est le quotidien de voyageurs qui optent pour ce moyen de locomotion, en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses d'un point de vue pratique, j'imagine.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler ?
Parmi les sponsors, ou en tout cas les partenariats qu'on avait, on en avait quelques-uns, il y avait notamment un tarif favorable, préférable, avec la Renault Zoé que l'on a utilisée, qui avait de manière effective à peu près 250 km d'autonomie. Donc, c'est pas énorme, hein, 250 km d'autonomie, ça permet de faire... Voilà. Oui. Donc, j'aurais tendance à dire que cette voiture marche très très bien, qu'elle est très agréable, très sincèrement. Par contre, elle n'était pas faite pour faire le voyage qu'on a fait. Donc, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Enfin, il y a eu des petites frayeurs, ça c'est sûr. Il y a eu des moments où on se demandait si on allait pouvoir arriver jusqu'à la prochaine borne. Et puis, par exemple, quand on est allé en Italie et qu'on a compris qu'il fallait, en fait, pour utiliser les bornes en accès, un code postal, en fait une adresse italienne qu'on n'avait pas, parce qu'on est français et qu'on n'avait pas du tout d'adresse italienne. Donc il y avait même des endroits où effectivement on voyait qu'il y avait des bornes, on ne pouvait pas les utiliser. Et on arrivait un peu confiant, c'est tout début en Italie du coup, et en fait on ne peut pas utiliser. Et donc encore une fois, est-ce qu'on va arriver avec suffisamment d'énergie à la prochaine borne, etc. Donc finalement pour faire je ne sais plus de mémoire, on a fait à peu près plus de 15 000 km. C'était pas la voiture idéale. Maintenant, c'était une voiture fort sympathique, moi que j'ai beaucoup appréciée, pour plein de raisons. Il n'y a pas de bruit, par exemple. Et puis, il y a cette bonne conscience dont je parlais tout à l'heure de se dire « Ah, je ne pollue pas ». Ou en tout cas, le lithium utilisé pour ma batterie a déjà pollué, donc en soi, c'est là. Du coup, là, maintenant, je ne pollue plus du tout dans mes kilomètres. Le quotidien, ensuite, c'était effectivement qu'il fallait... en amont, pouvoir calculer ces itinéraires-là. Donc, c'était une charge de travail supplémentaire. Et qu'ensuite, on ne restait pas toujours très souvent d'une ville à une autre. Donc, ça veut dire que parfois, on avait toute une semaine où on était plus tranquille dans des grandes villes, par exemple Bruxelles, Berlin, Rome, etc. Et parfois, non. Donc, du coup, la charge de travail n'était pas toujours la même d'un jour à l'autre, notamment vis-à-vis de la voiture électrique pour prévoir ses voyages.
D'accord, bah justement, ça fait une très bonne transition parce que je comptais te demander, du point de vue de l'organisation du voyage, si tu étais plutôt une voyageuse qui improvise ou une voyageuse qui planifie les choses. Et je suppose, en t'écoutant, que le fait de voyager avec un tel projet et aussi ce moyen de locomotion oblige à une certaine organisation.
Oui, ça ne permettait pas d'être très spontané, effectivement, sur le moment. Après, ça ne veut pas dire du tout que, de toute façon, il n'y a pas eu des moments spontanés, que ce soit des bons ou des mauvais moments. Je pense au plus mauvais moment spontané, qui est qu'en fait, on a eu une vitre brisée, la voiture. Donc, à Stockholm, quelqu'un... C'est une histoire très longue, je ne vais pas la raconter en détail, mais passant la tondeuse, on n'a vraiment pas eu de chance. La seule voiture de toute la rangée qui s'est ramassée un caillou, c'était nous. Donc, comme je disais en fait tout à l'heure, de Stockholm à Helsinki, il suffisait de se mettre dans un ferry. Donc on n'a pas eu vraiment trop à voyager et on a pu se faire remplacer la voiture à coup de beaucoup, beaucoup d'appels téléphoniques. Et parfois, on pense que les pays nordiques sont très, très à l'aise avec l'anglais, ce que je pense être absolument vrai. Mais bon, ça dépend d'où on se trouve. Et on a eu quand même des petits soucis parfois. Voilà, donc ça, c'est un côté, genre, un aléa, en fait, du voyage. Et il faut pouvoir composer avec. Après, il y a eu d'autres moments très spontanés. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je suis critique pour un journal, qui n'a donc rien à voir avec l'enquête en elle-même. Mais on avait des moments de pause avec le voyage. Donc, il y a eu des soirs où, en tant que critique pour ce journal-là, je me suis fait inviter, j'ai demandé des places pour des spectacles, et je suis allée voir une grosse dizaine de spectacles à travers toute l'Europe. Bah, c'était je tentais ma chance en présentant mes travaux, etc. Et j'ai pu, du coup, découvrir musicalement, artistiquement des choses que je ne connaissais pas, ou en tout cas où j'étais pas familière avec. Et là, il y a un côté, effectivement, se dire que parfois on a des soirs à soi, et c'est bien, je pense, pendant presque 4 mois et demi en vase clos, de pouvoir avoir ses propres moments à soi dans les différents pays européens qu'on a traversés.
Oui, tout à fait, parce que je me demandais aussi si justement voyager avec un projet si conséquent, parce que tu disais que vous avez rencontré 90 personnes environ sur 3 mois, c'est ça ?
Du coup, de voyage, c'est 4 mois et demi. D'accord. Et on avait fait un dossier préparatoire en décembre d'avant, donc on est parti de mai à septembre, et le mois de décembre d'avant, on avait rencontré plus d'une dizaine de personnes aussi en région parisienne. Oui. Donc en tout, bout à bout, on en a environ 90 personnes, oui. Ça fait beaucoup.
Ça fait quasiment une personne à rencontrer tous les deux jours, quoi. Ouais, c'est énorme.
On est aux environs de 150 jours, donc c'est vrai que voilà, ouais. c'est une bonne moyenne ce que tu viens de donner.
Et donc, est-ce que ça laisse la place au voyage en tant que tel, comme une expérience de vie, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent de voyager, selon toi, pour vraiment faire un voyage d'études et un voyage qui sera une sorte de... Pas forcément un voyage d'agrément,
purement, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vraiment différent. Après, j'ai eu la chance de pouvoir parfois un peu allier les deux. Il y a quelques ennemis qui nous ont rejoints pour juste quelques jours par-ci par-là. Comme je viens de le dire, j'ai pu aller dans beaucoup de centres artistiques assez importants, puis visiter gratuitement des musées parce que voilà, il y a quand même des moments où on a un peu de temps libre, et puis faut faire retomber la pression, etc. C'est important. Mais c'est vrai que c'est avant tout un voyage de recherche, une enquête de terrain. Pour laquelle il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des résultats à donner, en tout cas montrer que on fait pas les choses à moitié. Et effectivement, concilier les deux, ça a été, je pense, l'un des plus grands challenges du voyage. Je sais pas si on a réussi dans le quotidien ou pas. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on était suffisamment à l'écoute pour se donner des temps, donc entre Louis, Damien et moi, des temps personnels, en fait, que ce soit pour justement ne rien faire, marcher tout seul dans la ville. Moi, j'étais en charge.
C'est important.
C'est très important. Et surtout, moi, j'avais beaucoup voyagé avant toute seule, notamment en Europe. Et forcément, en repassant dans des villes que je connaissais déjà, j'avais pas du tout envie de faire les mêmes choses que les deux autres, qui parfois avaient souvent plus envie de rester chez eux, en fait. Enfin, du coup, chez nous, dans les B&B qu'on a utilisés pendant le voyage. Donc, je faisais des choses différentes. Soit, quand je connaissais très bien la ville, je me baladais là, exactement là où je savais que c'était chouette et que je voulais repasser, ou des choses que justement j'avais pas eu le temps de faire avant. Ou quand j'ai découvert complètement des pays ou des villes, typiquement Berlin, que j'avais jamais vu avant, alors que ça restait l'une des dernières villes que je voulais faire. C'était super chouette de pouvoir justement juste se perdre dans la ville, etc. Donc concilier les deux, je pense qu'avec un rythme effréné tel qu'on l'a eu, c'était l'un des challenges, voilà, l'un des défis. Après, c'était pas impossible et je pense que même ça aide beaucoup à retrouver calme, sérénité et la force aussi de pouvoir continuer sur autant de mois pendant l'été.
D'accord, donc tu alternais la place de chercheuse voyageuse et de voyageuse chercheuse.
C'est ça, exactement.
Et une fois de retour en France, est-ce que tu peux nous parler des suites du voyage, concrètement au niveau communication, poursuite du projet, etc. Tu as réalisé plusieurs choses.
Absolument. En fait, typiquement dans les premières choses qu'on a fait, on a organisé des rencontres avec notamment des sponsors, etc. Maintenant il est fini, mais on a organisé un séminaire de recherche. Et puis moi, à titre personnel, j'ai été du coup choisie à propos de ce projet-là en particulier et de mon dossier de manière plus générale pour être l'une des 10 premières lauréates d'une formation qui vient d'être lancée par la mairie de Paris en lien avec le réseau de villes C40 qui s'appelle Women for Climate. Donc l'idée, c'est donc on est 10 ou 11 je crois, filles, mais c'est 10 projets. Il y a un projet avec deux jeunes femmes. L'idée, c'est de justement être accompagnée et pouvoir développer ce qu'on a fait. Alors moi, dans ce que je veux développer, comme j'ai fait notamment toutes les photos, toute la vidéo, donc c'est des milliers de petits fichiers rangés dans mes disques durs, j'aimerais beaucoup faire une exposition. Qui soit à l'échelle c'est trop ambitieux, mais en tout cas sur différents sites de PSL, qui est l'un de nos sponsors. Et l'idée, ça serait par exemple de proposer des voyages de lieu à lieu différents, ou peut-être juste des lieux de passage pour que les gens d'une seule école passent devant des photos intéressantes, des petits montages peut-être, audio, vidéo, des textes, et leur proposer de pouvoir eux aussi, mis en abîme, redécouvrir les différents lieux de PSL, puisque ce qui m'intéresse justement, c'est l'idée du voyage, en tout cas de ce phénomène en procession, en passage, process, qui est intéressant pour penser la transition énergétique. Nous, le voyage qu'on a fait était en lui-même très signifiant, mais qui est aussi un matériau esthétique assez fort. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure avec le livre que j'ai apporté. Et puis, en plus de ce projet d'exposition, il y a un projet de documentaire, peut-être web documentaire,
Pardon, je t'interromps juste. PSL, pour les gens qui ne seraient pas à l'ENS, pardon, c'est le mouvement d'université donc, à laquelle appartient, auquel appartient l'ENS, donc Paris Sciences et Lettres.
C'est voilà. Ça. Et du coup, j'ai aussi un projet de documentaire. Donc, est-ce qu'il sera couplé avec le premier projet d'exposition ? Pour l'instant, je ne sais pas trop. C'est encore justement en travaux. Il faut que je démêle tout ça. Et puis, ça, c'est encore une fois des choses que j'ai déjà faites en même temps que le séminaire de recherche. C'est des publications. Donc des publications qu'on a déjà fait pendant le voyage sur notre site, mais j'ai continué, alors plus que les autres pour l'instant, mais j'ai notamment déjà publié dans le groupe de recherche, groupe d'études géopolitiques de l'ENS avec lequel je contribue et je participe. Et puis là, très très bientôt, je vais publier trois articles, un article personnel et deux entretiens dans une revue de philosophie de l'ENS aussi, sponsorisée par PSL également, qui s'appelle Prémisse. C'est une revue de philosophie politique. Et donc, je présente mon point de vue sur comment penser peut-être philosophiquement cette transition-là.
Or, donc c'est un voyage qui a vraiment des suites très 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 riches. Alors on va un petit peu changer de sujet parce qu'on va parler de littérature de voyage. Oui. Mais avant cela, donc on vous propose une petite pause musicale suggérée par Lola. Vous allez très vite comprendre le choix du morceau. Donc on écoute Ulysses and the Sea des Papouses.
In and out I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand.
C'était donc Ulysses and the Sea des Papouses. Alors, it's every day the same, clouds pass me by and I'm bound to take my time until I find you. C'est pas vraiment, enfin c'est plus une chanson d'amour que de voyage.
Oui.
Et pourtant, le choix de cette chanson par Lola a un sens, vous allez comprendre. Donc c'est une petite nouveauté dans Il faudra repartir que j'avais pas introduite à la première émission. Je compte à chaque fois demander à mon invité de choisir un livre ou un film qui évoque de près ou de loin le thème du voyage pour en discuter et voir si ces voyages littéraires ou cinématographiques sont une inspiration pour le voyageur contemporain. Alors du coup, avec Lola, on va parler d'Ulysse, car tu as choisi l'Odyssée,
voilà,
du grand classique.
Je me suis dit, quitte à ouvrir le bal des exemples, autant choisir vraiment à mon sens, hein, vraiment le grand classique en termes de voyage.
Quand même. Voilà,
qui a même donné Odyssée, enfin juste un synonyme même à l'idée en tout cas de voyager, etc.
Donc, ça devient un paradigme du voyage. Quoi.
Absolument.
Donc on va vous en lire un extrait. Ça se trouve au champ 4, donc ce n'est pas Ulysse le narrateur, mais Ménélas. Ça se passe donc après la guerre de Troie. Donc Ménélas est reparti vers Ithaque, mais pas en même temps qu'Ulysse. Il a fait un voyage séparé. Et donc, on est au début de l'Odyssée où le fils de Ulysse, donc Télémaque, demande des nouvelles de son père à Ménélas. Et celui-ci lui raconte la fin de son propre voyage, donc où il a été retenu par les dieux sur une île près de l'Égypte. Et donc ici, donc c'est Ménélas le narrateur qui est apostrophé par la fille de Protée, donc Protée, le dieu marin des métamorphoses. Écoutez. Étranger, es-tu donc un enfant ou un homme privé de raison ? Retardes-tu volontiers ton voyage ? Tu t'es réjoui donc à souffrir mille douleurs ? Puisque tu restes si longtemps dans cette île sans pouvoir trouver un terme à tes peines, et quand le courage de tes compagnons est prêt à s'éteindre ?
À ces mots, je lui dis en guise de réponse : Ô déesse, qui que tu sois, comprends-moi bien. Ce n'est pas de plein gré que je m'attarde ici. Sans doute ai-je dû offenser les dieux qui règnent sur le ciel. Mais toi, dis-moi plutôt, puisque les dieux n'ignorent rien, lequel d'entre eux m'entrave et me barre la route ? Et comment revenir par la mer poissonneuse ? Ainsi parlais-je, et la déesse aussitôt répondit.
Étranger, je vais te dire la vérité. L'infaillible vieillard de la mer, l'immortel Protée d'Égypte, qui connaît toutes les profondeurs de l'océan et obéit à Neptune, réside souvent en ces lieux. On dit qu'il est mon père et qu'il m'a donné le jour. Si tu peux le saisir dans quelques embûches, il t'enseignera ta route, la longueur du voyage, le moyen de retourner dans tes foyers, et comment tu pourras naviguer sur la mer poissonneuse. Il te dira encore... Si tu le désires, ô noble enfant de Jupiter, ce qui est arrivé soit en bien, soit en mal dans ta demeure chérie, depuis que tu l'as quittée pour entreprendre un voyage si long et si périlleux.
Mmh.
C'était donc un extrait du chant 4 de l'Odyssée avec la musique du mépris, de la musique de Georges Delerue, car on y parle beaucoup de l'Odyssée dans le mépris. Et on a même un moment un personnage qui émet l'hypothèse qu'en fait Ulysse ne voulait pas rentrer à Ithaque, il ne voulait pas retrouver Pénélope, et il voulait partir le plus loin possible.
Chouette.
Et le personnage de Fritz Lang, donc un personnage du mépris. En même temps qu'un grand réalisateur, dit aussi que l'Odyssée, c'est la confrontation de l'individu avec les forces de la nature. Et c'est un petit peu ce qu'on a ici, puisque dans cet extrait, on a l'impression que le voyage est placé un peu sous le signe de la contrainte. Le voyage du retour pour Ulysse, comme pour Ménélas, c'est avant tout une peine. Et les contraintes sont ici posées par les dieux. En fait, il n'y a plus de vent, c'est pour ça qu'ils peuvent pas partir de l'île. C'est les contraintes donc, matérielles, du hasard, les aléas du voyage qu'on a tout à fait, qu'on rencontre encore dans n'importe quel voyage, même aujourd'hui. Comment réagis-tu à ces contraintes qui te forcent à changer tes plans en tant que voyageuse? Est-ce qu'elles sont finalement bénéfiques au voyage?
Je pense, j'ai tendance à penser que la contrainte est fructueuse et que souvent se dire que la contrainte est un barrage, c'est pas voir comment est-ce qu'on est capable de pouvoir justement soit la dépasser, soit la transformer elle-même pour peut-être idéalement se transformer soi-même. Le voyage d'Ulysse, c'est un voyage de peine, c'est un voyage de souffrance, c'est aussi un voyage de joie. Mais parfois, même dans la joie, il y a une forme d'amertume et c'est à un moment donné où il est, je crois, sur l'île avec Calypso, et en fait, il reste, en trouvant cet amour presque parfait, finalement, il sent qu'il lui manque quelque chose et il sent qu'il doit repartir. Alors, est-ce que c'est une facilité narrative pour relancer le récit ou pas? Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans absolument tous les états dans lesquels il est, tous les lieux, etc., dans lesquels il passe, Ulysse est quelqu'un qui va souffrir beaucoup. Et je trouve qu'on l'oublie assez souvent avec, effectivement, un monde grec qu'on est plus souvent habitué à comprendre dans ses symboles, dans ses mystères. Et typiquement, on a parlé des vents sur la mer, mais la mer poissonneuse qu'on a évoquée plusieurs fois, toi et moi, c'est aussi, la mer, c'est quand même l'équivalent de la mort. Enfin, c'est en tout cas quelque chose de très très dangereux dans le monde d'Ulysse.
C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque étape, en fait, c'est un moment de souffrance où il est forcé de rester quelque part. Et où le moment où il repart va être un déclic en fait dans l'intrigue. Et donc justement, même le retour d'Ulysse n'est pas du tout un moment de joie et d'allégresse, même s'il le souhaite en fait pendant toute l'Odyssée. Mmh. Mais c'est le moment du massacre des prétendants, de la révolte des habitants d'Ithaque. Ça se termine sur l'appel au calme d'Athéna, une sorte de statu quo.
Ouais.
On a une sorte de tout ça pour ça après un si long voyage, un côté un peu nostalgique.
Et c'est intéressant parce que à chaque fois que justement Ulysse arrive quelque part, il y a toujours un peu le même stratagème d'écriture, en tout cas qui est effectivement de comprendre où on est, comprendre qui est, et surtout comprendre qui est Ulysse à ce moment du récit, puisque Ulysse n'est pas toujours le même, ou en tout cas il évolue quand même d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre passage dont on parlait tout à l'heure, le chant 8, où, je ne sais plus si c'est face à Nausicaa justement quand il arrive chez les Phéaciens, où c'est très intéressant parce que Ulysse est presque comme un autre à lui-même. Et il y a souvent ce côté d'altérité, de dualité en tout cas, que ce soit entre Ulysse et les autres ou même entre Ulysse et lui-même. Ou quand il arrive sur cette plage, il me semble que c'est justement un moment où il est tout seul, du coup il a plus aucun de ses compagnons. Et il arrive comme une sorte de bête, il est nu, il a les cheveux en bataille, etc. Il est affreux et d'ailleurs il ne peut pas se présenter à la douce et jeune fille qu'il voit. Et donc du coup il va émettre sa voix de derrière les buissons et c'est seulement quand il sera lavé ou oint d'huile, etc., qu'il pourra arriver. Et à ce moment-là, la déesse qui veille sur lui le transforme en très bel homme. Et il y a ces formes de transformation comme ça, permanente, de métamorphose à l'intérieur de l'Odyssée. Elles sont quand même très intéressantes pour comprendre l'altérité peut-être parfois d'Ulysse à lui-même, comprendre l'altérité des personnages entre eux. Et puis il y a toujours le monde divin qui s'intermêle avec le monde humain comme ça. Donc on est souvent sur des choses justement qui sont parfois du type de la collision, du choc ou de l'entrelacement qui sont assez intéressantes, je trouve.
C'est vrai que c'est un regard à la fois donc mythologique et très riche, en fait très juste sur le voyage, puisque c'est une rencontre de l'altérité dans le sens qu'on fait des rencontres en voyage, mais aussi qu'on change et qu'on fait l'expérience d'une altérité à soi-même. Et c'est vrai que Ulysse aimerait retrouver l'ancien Ithaque qu'il connaît, mais en fait il y a une sorte de déception à l'arrivée, puisque Ithaque a changé, mais surtout il a changé.
C'est intéressant, je ne sais plus qui fait cette analyse, d'ailleurs si c'est Jacoté ou quelqu'un d'autre qui parle de Pénélope comme effectivement ne le reconnaissant absolument pas. Et la reconnaissance alors d'Ulysse à lui-même et d'Ulysse aux autres, et surtout enfin, des autres qui reconnaissent Ulysse, est quand même un thème qui parcourt complètement l'Odyssée. Je viens d'en parler pour le chant 8. Il y a aussi d'autres formes de reconnaissance. Télémaque, par exemple, est une sorte de mise en abîme de son propre père. Le passage qu'on a lu avec l'idée, encore une fois, des souffrances et des obstacles, c'est un peu ce qui se passe pour Ulysse à peu près au même moment, etc. Donc, ce côté justement de revenir et de se rendre compte que c'est pas la même chose, il me semble que c'est finalement l'un des éléments peut-être les plus essentiels dans le voyage. Est-ce que quand on part, on va revenir la même personne ?
Bon, indemne. Moi,
indemne. Bah, je crois pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est mon point de vue. Tant que personne qui commence à avoir quand même pas mal voyagé, que ce soit pour le voyage dont on vient de parler ou même avant et après. Il me semble que c'est même peut-être nécessaire de se dire que... Alors après, c'est une question de degré. Alors forcément, quand on fait un voyage de Paris centre à la banlieue, c'est peut-être pas le même sorte de changement. Et encore, c'est assez intéressant de voir qu'en fonction de l'habitus, en fonction de là où on est, on va changer, alors en profondeur ou non, mais il y a quelque chose qui se passe, qui se travaille en tout cas.
Et par rapport au retour, enfin, j'ai parlé de nostalgie du retour, et justement la nostalgie étymologiquement, c'est la douleur du retour.
Absolument.
Comment est-ce que tu envisages ce retour ? Est-ce que la nostalgie, en fait, le blues du retour, est-ce que ça fait partie de ton expérience de voyageuse du coup ?
Oui, absolument, pour plein de raisons. Pour le fait que le voyage a été extrêmement dense et j'ai découvert plein de trucs. C'est-à-dire que revenir, alors en plus j'avais beaucoup de travail dès la rentrée, c'était un peu difficile de ne pas justement avoir eu comme ça cette pause. Et puis juste avant, l'année d'avant, c'était mon année de césure vis-à-vis de l'UNES, j'étais à Oxford. Et c'était encore une fois une autre temporalité, un autre voyage, d'autres rencontres. Et le fait de passer brutalement comme ça de... Alors Oxford, ce voyage intense et revenir, j'avoue que c'était très difficile et que ça m'a beaucoup marqué psychologiquement et puis aussi du coup comment j'ai commencé l'année. Et effectivement, je pense que le moment du retour est souvent un moment clé. Il peut très bien se passer, parfois on ne le sent même pas parce qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait revenu ou quoi que ce soit. Parfois il peut être très très violent et... l'idéal, c'est que ça ne soit pas trop violent non plus. Mais c'est quand même intéressant de se dire, mais tiens, comment j'étais quand j'étais partie de Paris et qu'est-ce que je faisais avant, etc. C'est des choses qui peuvent paraître totalement anecdotiques, ou superficielles pour d'autres, mais je trouve que c'est des jolies questions à se poser quand même.
Oui, puis je pense que c'est vécu par beaucoup de voyageurs.
Sans doute.
Est-ce que Ulysse, malgré le fait que son voyage soit vécu comme une douleur, est-ce que c'est un voyageur inspirant? Est-ce que tu retires de cette lecture dans ton appréhension personnelle du voyage ?
Oui, alors c'est beaucoup de souffrance, c'est aussi des moments justement qui sont en tout cas moins violents et qui amènent à Ulysse des révélations. Il y a notamment tout ce passage où il part aux enfers et Tirésias lui arrache un bout de vérité, quand même quelque chose dont Ulysse n'a pas accès en règle générale. Donc il y a aussi des moments de révélation qui sont assez intéressants. Il me semble que moi, ce qui m'intéresse, et on parlait tout à l'heure de mes projets pour Après Trêve, le format du voyage, le processus que provoque le voyage à l'extérieur ou à l'intérieur même d'une conscience, me semble intéressant comme presque une sorte d'épistémé, un moyen de se comprendre soi-même et de comprendre le monde. Et c'est ça que j'aimerais bien pouvoir remettre moi en forme après vis-à-vis du voyage que j'ai fait et des idées artistiques ou en tout cas qui m'ont traversé l'esprit depuis quelques temps. C'est parce que ce côté du passage me semble extrêmement puissant comme concept pour penser le monde, pour se penser soi. Et effectivement, Ulysse, on en a parlé tout à l'heure, avec le nombre de contraintes, le nombre de thèmes, le nombre de choses différentes abordées, l'Odyssée, c'est quelque chose de presque inépuisable. Et presque à la manière du fil que Pénélope tisse et défile à chaque fois, il y a dans cette matière-là, dans ce volume qu'est l'Odyssée, la possibilité de toujours tirer un fil différent et de voir sous un angle nouveau l'histoire même d'Ulysse et du coup peut-être même la symbolique du voyage.
Eh bien, du coup, ce sera le mot de la fin. que ce soit un voyage littéraire ou un voyage spatial, je pense que le titre de la mission s'applique bien à ton expérience.
Il faudra revenir, du coup.
Il faudra revenir aussi, oui. Donc, merci en tout cas d'être venu nous parler du projet Trêve, du coup.
Bah, merci à toi.
Et de ton tour d'Europe en voiture électrique. Pour rappel, toutes les informations par rapport à ça sont disponibles sur votre site internet.
Voilà, trêveproject.com.
Voilà, et sur la page Facebook de Trêve.
Entre autres, j'utilise aussi Instagram et Twitter si ça vous intéresse.
Parfait. En tout cas, merci aussi à Salomé qui est en régie aujourd'hui. Donc, nous serons de retour le 15 décembre, où on partira normalement en Écosse, si ça se confirme. Et on sera peut-être aussi cette fois vraiment en direct. Qui sait, parfois ça se remet à fonctionner. Et
je l'espère en tout cas.
Tout arrive. Bon week-end.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays. Et vers deux années, par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.